Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ce que dit Jacques. Faisons-nous partie des humbles? Sommes-nous dans le bon état d'esprit pour célébrer la Pâque? Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Avons-nous revêtu la bonne forme d'humilité? Avons-nous confier la barre de notre vaisseau au plus compétent des capitaines, à notre Sauveur, à Christ? Le laissons-nous nous guider? Avons-nous littéralement été conquis par lui? Lui faisons-nous entièrement confiance? Vit-il en nous? Reportons-nous à Jacques, si vous le voulez bien, Jacques chapitre 4 et le verset 5. Jacques, chapitre 4 et le verset 5. Enfin, c'est entre 5 et 10, je ne citerai qu'un verset ici, mais il est écrit « Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Un peu plus loin, sentez votre misère. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Nous devons nous abaisser, nous humilier. » C'est là l'état d'esprit que nous devons avoir pour célébrer dignement la Pâque de l'Éternel. Une attitude de sincère humilité. Mais comment être certain que nous avons cette sorte d'humilité? Comment être certain que nous serons prêts? Je ne veux pas nécessairement parler d'humiliation, mais d'humilité. Il y a une petite différence, surtout dans la façon dont on utilise ces deux mots. Dans l'humiliation, il y a souvent un sens négatif, dans ce sens que l'humiliation évoque souvent une certaine forme d'abus, de dégradation, d'humiliation. Ah, évidemment, c'est humiliation, mais une forme d'agression, si vous voulez, aussi de méchanceté, de médisance envers autrui ou de la part d'autres êtres humains. Je veux donc plutôt parler d'humilité, d'une prise de conscience de notre fragilité, de nos imperfections, de cette nature humaine qui nous colle à la peau et qui nous empêche d'atteindre notre potentiel d'enfant de Dieu. Je veux parler d'un bilan personnel, spirituel, d'un examen de conscience de qui nous sommes et de ce que nous sommes en avril 2022. Il s'agit d'une honnête et franche évaluation de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'être humilié par méchanceté, mais d'être volontairement et sincèrement abaissé, par une prise de conscience de notre petitesse. Ne pas nous prendre pour quelqu'un d'important, de plus doué que nous le sommes en réalité. C'est pourquoi je choisis plutôt le mot « humble » plutôt que le mot « humilié ». Humble. Et le jeûne nous aide à accomplir cela précisément. Précisément, le jeûne quand il s'agit évidemment de la bonne forme de jeûne. Un jeûne avant la Pâque est fortement conseillé. Ésaïe a parlé d'un jeûne qui ne sert à rien, qui n'accomplit pas l'effet escompté, qui n'est que pour la forme qui est hypocrite, et pour Dieu même, pourrait-on dire, insultant. Reportons-nous à Ésaïe, Ésaïe chapitre 58, parce que dans ce passage, Ésaïe parle des deux formes de jeûne. La bonne forme de jeûne, celle que Dieu aime, et la mauvaise forme de jeûne. Alors, Ésaïe chapitre 58 et le verset 1, nous débuterons avec le verset 1. Ésaïe 58 et le verset 1. Et Dieu parle ici à son serviteur, il dit, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche. » Ah, intéressant, il me cherche. Mais comment ? Ils veulent connaître mes voies ? Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? Ah voilà, c'est ce que le peuple dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Mais le peuple a-t-il la bonne attitude ? Et avons-nous, nous aussi, la bonne attitude quand nous jeûnons ? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ? Bonne question. Et Dieu répond à son peuple, lui expliquant ce qui ne va pas. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Question que pose l'Éternel. Un jour où l'homme humilie son âme, et s'agit-il simplement d'humilier son âme, pourrait-on dire ? Il s'agit pour nous d'humilier notre âme et non d'être humilié par quelqu'un d'autre, d'être avili, d'être critiqué, insulté, maltraité. Israël se méprenait sur le jeûne et nous devons faire attention de ne pas faire de même. Il s'agissait pour eux de courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Et Dieu pose la question, est-ce cela que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? À nouveau, il y a tout ce rituel physique, une certaine position, une certaine attitude, une certaine posture physique. Mais qu'est-ce qui compte pour l'Éternel ? Et au verset 6, Dieu nous dit, voilà le jeûne auquel je prends plaisir, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. En d'autres termes, il s'agit de ne pas être hypocrite, mais d'être sincère. Il ne s'agit pas de jouer la comédie, de jouer les humbles, mais pour la frime. Mais d'être sincèrement humble et de jeûner en secret et non pour se faire voir ou par propre justice. Alors, si tu fais comme cela, si tu jeûnes de la bonne manière, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. À cette époque de l'année, plus qu'à n'importe quel autre moment de l'année, Dieu nous dit de nous examiner. Il parle plutôt d'un examen spirituel. Nous pouvons certes nous regarder dans un miroir physique, c'est ce que nous faisons souvent, mais Dieu nous dit en somme de nous regarder dans son miroir spirituel. Il nous dit de dresser un bilan de nos activités et de notre vie spirituelle, de méditer nos échecs, disons des 12 derniers mois depuis la dernière Pâque, et de rechercher une victoire spirituelle. Quels sont mes échecs? Quels sont les domaines cette année où je n'ai pas réussi à croître comme j'aurais dû croître? Dans quelle mesure nous sommes-nous améliorés depuis la dernière Pâque? Dieu nous ordonne de faire du bilan, ce bilan, parce qu'il veut savoir, qu'il veut que nous sachions où nous en sommes. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est personnel, c'est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes. Pour bien s'examiner, pour le faire honnêtement, il faut être humble. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28, maintenant nous étions dans Corinthiens, mais 1 Corinthiens cette fois, 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et notez bien ici qu'il n'est pas dit que, ah, si tu trouves que tu t'es bien examiné, tu manges du pain et de la coupe, sinon tu ne manges pas du pain et de la... Non. Dieu s'attend à ce que nous fassions notre examen et que nous comprenions à quel point nous sommes fragiles, à quel point nous sommes encore imparfaits, et que nous nous rendions compte que nous avons besoin de manger ce pain et de boire cette coupe. C'est le sens. Mais pour cela, il faut avoir une bonne attitude. À nouveau, il est question pour nous de prendre cette Pâque dignement, en pleine conscience de ce que nous faisons, en pleine conscience de notre fragilité. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, qui fait cela, oh, vous savez, par routine, mais sans réellement se concentrer sur ce qu'il fait. Celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous devons donc nous assurer que nous nous examinons, c'est la clé, nous devons nous examiner pour savoir où nous en sommes, faire un bilan spirituel. Ça ne veut pas dire que nous devons nous assurer que nous sommes parfaits. Non, personne n'est parfait. Ce n'est pas l'objet de cet examen. L'objet de cet examen, c'est de nous rendre compte de qui nous sommes et de ce que nous sommes. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, parce que justement, il était question à ce moment-là, à Corinthe, de personnes qui avaient pris la Pâque à la légère. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés ou condamnés dans ce cas. Galates chapitre 6 et le verset 3. Galates 6 et le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, et nous ne sommes rien. Autrement dit, si quelqu'un des illusions, se fait des illusions, se prend pour ce qu'il n'est pas, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. car chacun portera sa propre charge. L'arrogance n'est certes pas l'un des traits de caractère les plus recherchés chez une personne. Les individus arrogants, imbus de leur personne et s'estimant meilleurs que les autres, sont bien énervants. Ils vous regardent de haut, sont égoïstes et insensibles, et ne se soucient guère des besoins de leur père. Pour bien des gens, l'arrogance des autres est une nuisance et une source de frustration, sans plus. On préférerait généralement voir moins d'arrogance chez certains, mais la société n'attache guère d'importance à son contraire, qui est l'humilité. Ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes semblent réussir, tandis qu'on prend souvent les humbles pour des paillasses. Dieu accorde une importance énorme à l'humilité, et il condamne sévèrement l'orgueil sous toutes ses formes. Dieu hait l'orgueil, hait dans le sens de haïr, pas E-S-T, mais H-A-I-T. Dieu hait l'orgueil. Il en est question dans Proverbes chapitre 6, versets 16 et 17. Reportons-nous à Proverbes chapitre 6. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Ça, c'est dans la version 21. Déteste ou hait, c'est fort. Dieu a des émotions fortes. Il hait certaines choses. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains. La langue menteuse. Les mains qui versent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Il y a donc 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Et on trouve une liste de ces choses que Dieu hait, non pas des choses qui le dérangent un peu, non, ou qui l'agacent, ni quelques frustrations mineures. Mais des choses qu'il ne tolère pas. Et en premier sur cette liste figurent les yeux hautains. L'orgueil, autrement dit. Et Dieu ne se contente pas de haïr l'orgueil. Pour lui, c'est si offensant qu'il résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles, comme je le mentionnais au début de mon passage. Il s'agit de Jacques, chapitre 4, verset 6. Dieu exige aussi de ceux qui décident de le suivre qu'ils soient humbles. Michée, chapitre 6, verset 8, déclare « Ce que l'Éternel demande de toi, Michée 6, 8, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est sur celui qui a l'esprit abattu et non sur l'arrogant qu'il porte ses regards, comme cela est écrit dans Ésaïe 66 et le verset 2. Je note simplement au passage, Ésaïe 66, verset 2. Et le contraste entre les deux est si violent que Dieu démolit la maison des orgueilleux. Mais il affermit les bornes de la veuve, comme on peut le lire dans Proverbes 15 et verset 25, Proverbes 15, 25, version Osterwald. C'est donc très important. Est-ce que nous sommes prêts pour cette Pâque qui vient? Est-ce que nous faisons en ce moment, il ne s'agit pas de faire ça à la dernière minute, mais est-ce que nous nous préparons pour cette Pâque? Les biens des hautains seront détruits. Alors que Dieu veillera sur les humbles comme les veuves. Il les protégera. Dieu voit l'orgueil pour ce qu'il est réellement. un terrible instigateur de méchanceté. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? L'univers était à l'origine idéal et plongé dans la paix. Tout y était parfait. Il n'y avait pas de lutte, aucune. Aucune confusion, pas de violence, ni de mal, ni de destruction. Mais les choses commencèrent à changer. Petit à petit, l'un des anges de haut rang se mit à se prendre pour quelqu'un d'important. Cet ange, qu'on appelle souvent Lucifer, se mit à croire qu'il était même meilleur que Dieu lui-même. À mesure que son orgueil s'accrut, il corrompit apparemment un tiers des anges et fomenta une rébellion contre le Dieu des cieux. Il est question de cet astre jadis brillant, mais maintenant déchu, dans Ésaïe 14, versets 12 à 15 plus spécialement, Ézéchiel 28, versets 11 à 19, et Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Pour bien comprendre pourquoi Dieu hait l'orgueil, à nouveau « hait », pas « est », mais « hait » de « haïr » ou « déteste », je pense que c'est une bonne traduction aussi, pourquoi Dieu déteste l'orgueil et attache beaucoup d'importance à l'humilité, il importe de comprendre les projets que Dieu a pour l'humanité. Et ces projets ne se limitent pas à cette vie physique, temporaire. Cette dernière est un tremplin, un palier en quelque sorte, nous permettant de nous préparer à vivre sans être limités. Et cela pour l'éternité. L'humanité a été créée dans un dessein précis, pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu lui-même. 2 Corinthiens 6, 18, Hébreux 2, 10. 2 Corinthiens 6, 18, Hébreux 2, 10. Et ceux qui deviendront enfants de Dieu posséderont des pouvoirs énormes. Il s'agit de vous et moi. Et, à un moment donné, dans l'avenir, de la plupart des êtres humains. Nous sommes les prémices, mais après il y a tous ces milliards d'individus qui vont venir après et qui, eux aussi, auront la possibilité d'être appelés et de faire partie de la famille divine. Quel plan extraordinaire, quel plan magistral. Mais là, à ce moment-là, nous aurons des pouvoirs pour l'éternité et nous aurons besoin d'avoir le caractère qu'il faut. Pensez-vous au fait que Dieu lui-même est humble? Dieu nous demande d'être humble, mais il est humble lui-même. Christ était très humble. Et l'humilité est une qualité absolument primordiale. Ses pouvoirs ne peuvent pas être confiés à n'importe qui. Dieu ne les confiera qu'à ceux en qui il a confiance et dont il sait qu'ils s'en serviront sagement. S'il avait confié ses pouvoirs à quelqu'un d'aussi arrogant que Satan ou Lucifer, le risque de méchanceté et de destruction serait inimaginable. Il est impératif que nous apprenions l'humilité à présent, pendant cette vie physique. L'orgueil détruit et corrompt. Aucun membre de la famille divine ne peut être orgueilleux. Dieu ne l'est pas, et ses enfants ne le seront pas non plus. Nous avons un choix à faire. Pat Williams, dans son livre « Humility, the Secret Ingredient of Success », a fini par se dire que ceux qui ont été véritablement grands dans l'histoire étaient aussi des personnes très humbles. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il a écrit cela en 2016, page 18 de ce livre. Et laissez-moi citer un petit passage qu'il donne aux pages 40 et 41. Il dit ceci. L'humilité est un choix, comme l'est l'arrogance. La bête sauvage de l'arrogance se tapit toujours en nous et ne peut être tempérée que par une force plus puissante, plus spirituelle. La force de caractère qu'est l'humilité. Nous devons constamment opter pour une attitude d'humilité, sinon nous opterons instinctivement pour l'arrogance. Intéressant, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre décrit ce choix par ces mots. Revêtez-vous d'humilité. 1 Pierre 5,5. Revêtez-vous d'humilité. C'est une belle image. Hein? Il faut que ce soit votre habit en quelque sorte. Revêtez-vous d'humilité. 1 Pierre 5,5 est d'après The Expositor's Bible Commentary. Revêtez-vous, eg kom bosast. Oh. C'est pas facile à prononcer, c'est un mot grec qui s'applique, ça s'applique à un esclave qui met un tablier avant de se servir. Les chrétiens doivent donc imiter leur Seigneur qui se saignit d'un linge pour servir. C'est ce qu'on peut lire dans son livre, dans The Expositor's Bible Commentary, dans le volume 12, publié en 1981. Après avoir dit que les rois païens des nations les dominent en seigneur, ce que nous voyons dans Luc 22-25, dans la Nouvelle Bible Second, Christ dit à ses disciples que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert, verset 26, Nouvelle Édition de Genève. Vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que tout cela a à faire avec le jeûne? Bonne question, question légitime. Mais je vous répondrai énormément, cela a énormément à faire avec le jeûne. Cela a un rapport direct avec lui. Le jeûne spirituel est inséparablement lié à l'humilité. Notez bien que je ne parle pas du jeûne pour raison de santé, qui a affaire avec une sorte de désintoxication physique de notre corps. Le jeûne biblique comprend certes l'abstinence de nourriture et de boisson, mais c'est aussi et surtout un exercice spirituel, intimement lié à notre recherche d'humilité, à notre désir de nous rapprocher de Dieu pour être comme lui, en tout point. Notre désintoxication physique doit être secondaire. L'objectif majeur et primordial du jeûne est de nous rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, nous rapprocher de Dieu, c'est aussi et surtout l'approuver à 100%. Est-ce que nous approuvons Dieu ou alors est-ce que nous avons toujours toutes sortes de questions? Ouais, moi, je demande, bon, Dieu, bien sûr, il est là-haut et hein, il est tout puissant et tout, mais moi, je comprends pas toujours pourquoi il fait telle ou telle chose. Est-ce que c'est votre attitude? J'espère que non. Il doit y avoir en nous cette confiance totale. La foi, c'est une confiance totale en Dieu. Savoir que Dieu cherche toujours notre bonheur et ce qu'il y a de meilleur pour nous, qu'il nous aime, qu'il se soucie de nous. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce qu'il est votre ami sincère, intime, de tous les jours, de tous les moments, de tous les instants? À mesure que nous nous rapprochons de la fin, nous avons besoin d'être comme cela, d'être si proche de Dieu, de dialoguer avec lui toute la journée. Au travail, dans nos activités, d'être toujours en contact avec lui. C'est de cela que nous avons besoin, maintenant, plus que jamais. Et dans cela, nous avons besoin d'humilité, de nous rendre compte que nous avons besoin de lui, de penser comme il pense, de raisonner comme il raisonne, à 100%. S'il y a des intoxications, c'est une désintoxication spirituelle, destinée à nous débarrasser du poison ou des toxines, de l'orgueil et de la propre suffisance. Vous sentez-vous proche de Dieu? L'approuvez-vous à 100%? Le comprenez-vous? Ça aussi, c'est important. Nous serons membres de la famille divine. Est-ce que nous comprenons Dieu? Quand il nous dit ce qu'il nous dit dans sa parole, est-ce que nous comprenons pourquoi? Il ne s'agit pas de dire, bon, ben, il faut obéir, oui, c'est doux, hein. Il n'y a pas que ça. Il faut que ça soit dans notre cœur. Il faut que nous soyons convaincus qu'il a raison et que sa voix est la meilleure. Voyez, en quelque sorte, l'humilité revient toujours sur la sellette. Il y a toujours cette question d'humilité, nous rendre compte que franchement, nous n'avons pas toutes les réponses. Nous ne sommes rien. Je ne suis rien, vous n'êtes rien, nous sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Il y a beaucoup trop d'orgueil dans ce monde. Si Dieu ne nous donnait pas, même ne serait-ce que l'air que nous respirons, poup, c'est fini. Il n'y a plus personne. Notre nature humaine a tendance à prendre le dessus. Nous devons avoir un certain esprit de dénégation. Refuser de succomber aux exigences et aux caprices de la chair. Avons-nous un cœur de serviteur? Notez bien que je n'ai pas dit « avons-nous un esprit de service ?» Bon, c'est bien d'avoir un esprit de service, mais avons-nous un cœur de serviteur? C'est différent. Avoir un cœur de serviteur, c'est joindre le geste à la parole, non seulement en étant serviable, mais aussi et surtout en ayant un cœur de serviteur. J'espère que vous comprenez la différence. C'est là que l'humilité intervient encore. Pas l'humiliation, non, l'humilité. C'est de cela dont Paul parle dans Philippiens 2. Reportons-nous à Philippiens 2, verset 3. Philippiens chapitre 2 et verset 3. Est-ce que nous sommes prêts pour cette Pâque? Est-ce que cette Pâque sera la meilleure de toutes? Est-ce qu'elle sera la plus significative de toutes? Est-ce que nous serons plus proches de Dieu cette année que jamais auparavant? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Nous n'avons peut-être plus beaucoup de temps. Sommes-nous proches de Dieu? Il faut prendre les choses au sérieux. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ouh, ça c'est difficile. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est comme cela qu'il pensait, c'est comme cela qu'il voyait les choses. C'est pour ça que je dis que nous devons à tout prix penser comme Dieu pense, raisonner comme il raisonne, appréhender sa pensée parfaite, avoir le même amour, cette même gentillesse, cette même paix qu'il y a en lui, cette excellence. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, ou comme on peut le lire dans la version Martin, étant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Il est question de Christ ici. Il aurait pu dire, hey, je suis Dieu, donc, hein, laissez-moi tranquille. Il était humble. Voilà un Dieu, un des deux êtres de la famille divine, il y a deux êtres dans la famille divine, incidemment, le Père et le Logos, ou le Fils, celui qui est devenu le Fils, pas trois. Le Saint-Esprit est toujours décrit dans la Bible comme la puissance de Dieu. C'est toujours dans le neutre. Et dans le grec, c'est très clair qu'il s'agit d'une puissance et non d'un être. Nous ne croyons pas en la Trinité. La Trinité est une invention humaine. Il est question de Christ, il s'est dépouillé, verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Essayez d'imaginer Dieu se dépouillant de sa divinité pour devenir un homme, pour apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est qu'être humain, souffrir les mêmes souffrances, avoir les mêmes tentations. Waouh, ça dépasse l'imagination et pourtant c'est la sorte de Dieu que nous avons. Le Logos, le porte-parole de Dieu, celui qui est à la droite du Père de toute éternité, a décidé, a accepté de devenir un homme pour comprendre qu'est-ce qu'on ressent quand on est humain, quelle sorte d'expérience on a. Waouh ! Je pense qu'on ne peut pas imaginer cela réellement, pleinement. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et même en devenant un homme, il apparut comme un vrai homme. Comme un vrai homme. Il était Dieu, mais il était homme totalement aussi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui qui était parfait, lui qui n'a jamais péché. Christ ne pensait cependant pas avoir peu d'importance. Il était conscient de son identité, de sa mission et aussi de sa perfection. Néanmoins, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, comme nous l'avons lu. L'humilité ne se limite pas à l'idée que nous ne faisons de nous-mêmes. Il est aussi question de la manière dont nous traitons nos semblables. Nous ne devons pas nous donner une importance exagérée, mais nier les talents que Dieu nous a donnés est tout aussi négatif. Nous devons savoir ce que Dieu a placé en nous et ne pas être orgueilleux, mais utiliser ces talents et savoir qui nous sommes. À nouveau, est-ce que nous connaissons? C'est le moment de l'année de faire le bilan. Est-ce que je me connais? Est-ce que je connais mes faiblesses? Est-ce que je connais mes qualités? Oui, d'accord, les qualités pour pouvoir servir. Quels sont les dons, les talents que Dieu m'a donnés? Mais quelles sont mes faiblesses? Quels sont les domaines dans lesquels j'ai besoin de travailler davantage? De lutter davantage pour éliminer ce poison, cette toxine qu'est le péché? Pourquoi jeûner? Pour nous préparer à la Pâque, pour prendre la Pâque dignement. J'ai plusieurs points ici, plusieurs conseils. Pourquoi jeûner? Premièrement, pour prendre la Pâque dignement. Pour cela qu'il est conseillé de jeûner au moins une fois avant la Pâque. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et nous voulons éviter cela à tout prix. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. À nouveau, il n'est pas question de se demander si on va le faire ou non. Non, c'est un ordre. Mais nous devons nous examiner pour bien comprendre où nous sommes, où nous en sommes spirituellement. Et nous avons besoin du pain et du vin. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 11 à 28 est le passage auquel je faisais allusion. Pourquoi jeûner? Pour nous préparer à la Pâque. Deuxièmement, pour nous placer dans le bon état d'esprit. Pour nous placer dans le bon état d'esprit. Troisièmement, pour nous rappeler que sans Christ et sans son sacrifice, nous n'aurions aucune chance d'entrer dans le royaume de Dieu et faire partie de la famille divine. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort, comme nous le savons. Romains 3, 23, Romains 6, 23, ce sont des passages que nous connaissons bien. En lui, en Christ, en le Logos, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, 7. Pourquoi encore jeûner? Pour nous préparer à la Pâque. Autre raison pour laquelle il est fortement conseillé de jeûner. Quatrièmement, pour nous rappeler que pour Dieu, un chef, un responsable, un roi, un sacrificateur, n'importe quel dignitaire dans son royaume, c'est avant tout un serviteur. Un serviteur. Ce qui va à l'encontre, c'est totalement le contraire de ce que le monde pense. Cinquièmement, pour nous rappeler que l'orgueil n'a aucune place dans la famille divine. L'orgueil n'a aucune place dans la famille divine et il nous faut l'humilité à tout prix. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il vous faut l'humilité, comme Dieu est humble. Sixièmement, pour avoir plus le temps de nous examiner, de faire notre bilan spirituel. Quand nous jeûnons, c'est une occasion positive pour faire un bilan, n'est-ce pas? Et septièmement, pour passer du temps avec notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ en nous détachant du monde et de nos obligations physiques et matérielles. Donc, 7 points ici. Qu'est-il conseillé pour réussir son jeûne? Bon, je vais vous donner quelques conseils. Premièrement, nous devons nous isoler. Il faut s'isoler, il faut passer du temps tout seul. Quand vous jeûnez, il faut que vous soyez tout seul avec Dieu. Deuxièmement, nous devons trouver un endroit propice à la réflexion, à la méditation, à la prière et à l'étude de la Bible. Mais je pense que le jour du jeûne, c'est surtout prier, c'est surtout être en contact avec notre Père Céleste et son Fils qui est important. Dialoguer avec eux, se rapprocher d'eux. Si le sabbat est le seul jour où vous pouvez faire ces choses, soit. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent le jour du sabbat parce que pour eux, c'est le seul moment. Le restant de la semaine, ils travaillent, c'est plus difficile. Le sabbat, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jeûner un jour de sabbat. C'est un jour formidable pour se rapprocher de Dieu. Et nous devons aussi nous souvenir que le jeûne n'est pas un marchandage. Le jeûne n'est pas un marchandage. Nous ne jeûnons pas pour nous rendre dignes d'exiger quoi que ce soit de la part de Dieu. Nous ne méritons rien. Le jeûne, d'après la Bible, n'est pas une grève de la faim. Comme je le disais dans un autre message que j'ai donné il y a plusieurs mois maintenant, jeûne ou grève de la faim ? Jeûne ou grève de la faim ? Nous devons renoncer à toute activité physique exténuante et être au calme. Pour bien jeûner, pour bien profiter de ce jeûne, il faut être au calme. Bref, nous devons nous souvenir de ce que Dieu dit dans Ésaïe 58, versets 1 à 11, que nous avons lu. Ésaïe 58, versets 1 à 11, où il nous montre ce que c'est qu'un jeûne qui est agréable à ses yeux. Il faut bien le faire. Et aussi, il est bon à cette période de l'année de nous demander, de nous demandons quels sont nos principaux défauts. Faire un bilan. Quels sont nos principaux défauts, nos péchés. Nos péchés, oui, nous péchons encore. Nous ne sommes pas encore parfaits. Les domaines dans lesquels nous devons fournir le plus d'efforts pour nous aligner sur le caractère de Dieu. Cela requiert de l'honnêteté. Et votre conjoint ou conjointe, ou papa ou maman ou un ami peut vous aider en ce sens, parce que nous ne voyons pas toujours comment nous affectons les autres. Alors il est bon d'avoir quelqu'un qui nous dit, tu sais, dans ce domaine, tu pourrais faire des efforts, apporter des améliorations. Rappelez-vous, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, 6. Et ensuite aussi, qu'est-ce qu'il est conseillé pour bien réussir son jeûne ? Eh bien, essayez de passer du temps à ouvrir votre cœur à l'Éternel. C'est probablement ce qu'il y a de plus important. Ouvrir votre cœur à l'Éternel, à lui parler, à méditer ses voies. C'est un jour où, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, là vous avez un Père qui vous aime, qui vous écoute, qui vous entend, qui veut savoir ce que vous avez sur le cœur. Et c'est un bon moment de le faire. Il y a cette relation qui se resserre. Notre destinée à vous et à moi, frères et sœurs, c'est d'être littéralement dans le cœur de l'Éternel. D'être à 100% d'accord avec ces deux êtres merveilleux, le Père et le Fils, d'être à 100% de leur côté, à les approuver 100%, à les aimer à 100%, être tout à fait de leur côté. Alors pour faire cela, il faut développer cette relation. Quels sont les péchés qui, selon Paul, allaient être les plus notoires au temps de la fin ? Intéressant parce que nous croyons que nous vivons au temps de la fin, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs signes qui nous l'indiquent. Nous ne savons pas le nombre d'années ou de mois qui restent encore, mais nous savons que lorsque nous voyons le figuier, nous savons que l'été approche. Nous voyons les choses se passer, nous voyons qu'il n'y en a plus pour longtemps. Alors, quels sont les péchés qui sont les plus courants dans cette société ? Des péchés qui nous affectent et qui nous touchent et quelquefois qui sont les nôtres aussi. Paul en a parlé 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée 3, 1. Sache que dans les derniers jours, à mon avis, nous sommes dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles, des temps fâcheux, des temps stressants dans d'autres traductions. Car les hommes seront égoïstes. Ah, égoïstes, oh oui. Vous regardez autour de vous, il y en a beaucoup d'égoïsme. Mais nous sommes touchés aussi par cet égoïsme. Amis de l'argent, oh oui, amis de l'argent. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents. Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants ou manquant de maîtrise de soi, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, pas simplement d'orgueil, mais enflés d'orgueil, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, ou de ces femmes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Intéressant comment il a tourné cela. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Nous avons beaucoup de gens comme ça qui apprennent toutes sortes de choses, des bêtises, des trivialités, et qui pourtant n'apprennent rien de ce qui est important dans la vie. Apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Est-ce que cela nous décrit ? De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et les versets 12 et 13 sont également significatifs. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, persécutés. Verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Les disciples avaient demandé à Jésus comment prier, et Christ leur avait donné un schéma de prière pour qu'ils sachent non seulement comment prier, mais aussi pour qui et pourquoi prier. Pourquoi prier. Ce modèle de prière est ce que l'on appelle communément le Notre Père. Et c'est dans ce contexte qu'il ajouta quelques précisions importantes sur un autre sujet, lui aussi étroitement lié à notre attitude. Matthieu 6, verset 16. Matthieu chapitre 6 et le verset 16. Lorsque vous jeûnez, il ne dit pas si vous jeûnez, il dit lorsque vous jeûnez. Et on ne jeûne pas qu'une fois par an. Un vrai chrétien ne jeûne pas qu'une fois par an. Le jour des expiations, quand Dieu nous l'ordonne. Si vous ne jeûnez qu'une fois par an, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez besoin de plus d'humilité. Croyez-moi. Plutôt croyez la Bible. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, personne n'a besoin de savoir que vous jeûnez. C'est entre vous et Dieu. Frères et sœurs, le jeûne fait-il partie de votre arsenal spirituel? Jeûnez-vous souvent? Les gens ont diverses conceptions du jeûne. En fait, beaucoup pensent que le jeûne consiste à se priver de viande. Je me souviens de ma mère catholique qui jeûnait le vendredi en mangeant du poisson au lieu de viande. Pour elle, c'était cela, jeûner. Bon, elle était sincère, mais dans la Bible, jeûne, ce n'est pas cela. Jeûner, ce n'est pas remplacer la viande par du poisson. Jeûner, c'est ne pas manger et ne pas boire pendant 24 heures. En général, 24 heures, vous pouvez avoir un peu plus long que cela. Et vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Bon, il y a certaines personnes qui ont des ennuis de santé, c'est à vous de savoir. Mais il m'est arrivé de jeûner 4 jours, je pense, 4 ou 5 jours. Et le premier jour est le plus difficile, après il semble que le corps s'habitue. Bon, je ne dis pas que tout le monde puisse faire cela, donc ne me citez pas nécessairement. Mais je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Votre corps s'habitue. Bon, évidemment, il ne faut pas faire des exercices physiques très violents quand vous jeûnez. Hein, sinon, vous allez éliminer toute l'eau, vous allez être déshydraté, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le jeûne n'a pas besoin d'être juste 24 heures. Quelquefois, vous pouvez aller un peu plus, quelquefois un peu moins. Mais l'objet, c'est de vous rapprocher de votre Père Céleste. À nouveau, ce n'est pas juste le physique, c'est surtout le spirituel qui compte là-dedans. Alors, est-ce que nous sommes prêts pour observer cette Pâque ? Pour que ce soit la meilleure des Pâques, la plus significative, pour que lorsque nous observons, nous célébrerons cette Pâque cette année, nous nous sentions réellement proches de notre Père Céleste. C'est cela l'objet, n'est-ce pas? Luc chapitre 18. C'est intéressant, vous savez, Voltaire, le philosophe français du XVIIIe siècle, a écrit que l'amour propre est un ballon gonflé de vent, dont il sort des tempêtes quand on y fait une piqûre. Je trouvais ça, c'était intéressant, des tempêtes. On pique l'amour propre et puis... hein, l'amour propre. Intéressant. L'amour propre est un ballon gonflé de vent, dont il sort des tempêtes quand on y fait une piqûre. Reportons-nous à Luc chapitre 18, verset 9. Luc chapitre 18 et le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent ou se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous voyez l'attitude, aucun cas des autres. Justement, le jeune dont Ésaïe 58 nous disait qu'il ne sert à rien. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Ou collecteur d'impôts, publicain, collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. Oh oui, je donne la dîme de tous mes revenus. » Voilà un individu qui se targuait de jeûner deux fois par semaine, mais il semble que ce soit surtout pour se faire remarquer et admirer par propre justice et non pour plaire à Dieu. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'ascétisme est une discipline volontaire, du corps et de l'esprit, cherchant à tendre vers une perfection, par une forme de renoncement ou d'abnégation. Notez bien qu'il ne s'agit pas de rechercher la perfection en obéissant à Dieu, mais en pratiquant une forme de discipline humaine, d'abnégation ou de renoncement humain. L'apôtre Paul eut affaire à des ascètes, A-S-C-E, accent grave, T-E-S, des ascètes auxquels il fait allusion dans son épître aux Colossiens, notamment dans le deuxième chapitre. Il y a souvent chez les ascètes un souci de vouloir se faire passer pour humble. Colossiens 2,18 parle d'une apparence d'humilité. Une apparence d'humilité. Puis il est question de vain orgueil, de pensée charnelle, de principes élémentaires du monde. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 21, à nouveau, c'est Colossiens 2. Colossiens 2, 16, reportons-nous à ce passage, Colossiens chapitre 2, verset 16. Le jeûne est tout un sujet. Je ne fais qu'effleurer le sujet à nouveau aujourd'hui. C'est un vaste sujet. Mais j'espère vous avoir donné quelques éléments pour vous préparer, vous aider à vous préparer pour la Pâque. J'espère. Colossiens chapitre 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Il y avait ces gens, ces ascètes, hein, qui pratiquaient cet ascétisme, qui critiquaient les vrais chrétiens. À Colosse. Hein, la fête, la nouvelle lune des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, mauvaise traduction. Laissez cela au corps de Christ qui est l'Église. C'est une meilleure traduction. Laissez cela à l'Église. C'est à l'Église de statuer là-dessus. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Et pas des bonnes visions. Des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, pas spirituelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Dieu est au centre de tout cela. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi si, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ses préceptes? Vous impose-t-on des autres, vous impose ses préceptes, hein? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Les ascètes, ces gens qui pratiquaient l'ascétisme, disaient aux chrétiens ces choses. Vous n'avez pas le droit. Probablement, ils disaient, vous avez ces jours de fête, et regardez que tout le monde qui se réjouit, tout le monde qui mange, qui fait bonne chère, hein, qui boit, etc. C'est pas juste, ça. Si, c'est juste. Pour Dieu, Dieu nous dit de nous réjouir lors des fêtes, et il n'y a aucun mal à cela, et si les ascètes ne sont pas contents, qu'ils aillent ailleurs, pour être poli. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ces ordonnances et ces doctrines d'ascètes, des ascètes, ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur et ne sert qu'à satisfaire la chair, leur orgueil. Qui est-ce qui connaît ces fautes commises par erreur? Purifie-moi de mes fautes cachées. Psaume 19, verset 13. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il y a de l'humilité dans toutes ces choses. Il est question en filigrane de l'humilité. De ne pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous souvenir que nous sommes peu de choses. Et si nous sommes beaucoup, c'est parce que Dieu a placé en nous de belles choses. Cela ne vient pas de nous. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens 2, 1. Et je lirai à partir de la version Martin. Donc il y a peut-être une petite différence avec la version que vous avez. Et vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés. Vous étiez mort spirituellement, vous étiez mort. Avant votre conversion, avant votre baptême, avant l'imposition des mains, avant que vous ayez reçu le Saint-Esprit, vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité ou du grand amour dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie ensemble, en Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés, non pas par un mérite que nous ayons, c'est par sa grâce, grâce à son amour. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, c'est prophétique, nous ne sommes pas encore ressuscités, mais dans le grec, souvent, lorsqu'il y a le temps futur, ça veut dire que c'est quelque chose qui est certain. Ça va se produire, c'est certain. Et pour Dieu, cela va se produire, c'est comme si c'était déjà accompli. Le jeûne est un outil spirituel important pour le chrétien. ce que Dieu veut dire dans Ésaïe 58, et je vous invite à relire tout ce passage, Ésaïe 58, quand vous aurez l'occasion. Ce que Dieu veut dire, c'est que les jeunes ne servent à rien si nous pratiquons toutes sortes de méchancetés en nous attendant à ce que nos jeunes nous justifient. Il y a une certaine ironie dans tout ce passage d'Ésaïe 58. Dieu y use de moquerie un peu là-dedans. Soyons conscients d'une chose, frères et sœurs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, versets 12 et 13. L'une de ces armes, donc, est le jeûne. Préparons-nous pour cette Pâque. Dans moins de 2 semaines, nous célébrerons la Pâque de l'Éternel. Gardons présent à l'esprit les enseignements que nous avons reçus aujourd'hui, tirés directement de la parole de Dieu. Rapprochons-nous par un jeûne de notre grand Dieu d'amour pour que cette Pâque soit la plus significative de toutes et que nous la prenions dignement. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, sans oublier de vous souhaiter à tous de bonnes fêtes printanières. Et je vous dis bon courage, au revoir et à bientôt.